Les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest. L'industriel français Vincent Bolloré a été placé en garde à vue ce mardi à Nanterre, près de Paris, dans une enquête sur les soupçons de corruption autour de l'attribution de concessions portuaires en Afrique de l'Ouest. L'homme d'affaires est entendu dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à Paris qui vise à déterminer si le groupe Bolloré a utilisé ses activités de conseil politique via sa filiale Havas pour obtenir la gestion des ports de Lomé au Togo et de Conakry en Guinée. Cette information judiciaire portant sur des soupçons de corruption d'agents publics étrangers a pris la suite d'une enquête préliminaire ouverte en juillet 2012 par le parquet de Paris, puis transférée au parquet national financier. Dans un communiqué, le groupe Bolloré a démenti formellement toute irrégularité liée à ses activités en Afrique. Au Sénégal, poursuite de la polémique au sujet de la nouvelle loi sur le parrainage politique, malgré les fortes contestations de l'opposition et de nombreux troubles dans la capitale, le texte a été adopté par l'Assemblée nationale. Et il faudra désormais recueillir 52 000 signatures de citoyens pour espérer être candidat à la présidence. L'opposition accuse le pouvoir d'épuration des potentiels aspirants à la magistrature suprême, avec l'emprisonnement des principaux challengers et surtout le vote de la loi sur le parrainage des candidats à la présidence. Des appréhensions jugées légitimes par le directeur exécutif d'Amnesty International. Sidi Gassama estime que le timing choisi par le pouvoir pose problème.
Mais maintenant, attendre à moins d'un an des élections pour proposer une nouvelle réforme, même si cette réforme n'est pas mauvais en soi, il pose problème. Parce que la classe politique ne s'y attendait pas. La classe politique considère que le temps qu'il aurait imparti pour pouvoir satisfaire cette nouvelle exigence du code électoral, n'est-ce pas, est extrêmement limité. Et qu'il y a d'autre part beaucoup de pièges et des pièges réels avec cette affaire de parrainage.
Sidi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International. En Mauritanie voisine, 4 prévenus ont été condamnés lundi à des peines d'un an de prison ferme pour avoir traité autrui d'esclaves. Une première pour ce type de délit dans un pays où la persistance de pratiques esclavagistes est régulièrement dénoncée par les ONG. Le tribunal spécial de répression des crimes d'esclavage a prononcé la peine maximale qui va de 6 mois à 1 an de prison prévue pour ce type de dénigrement dans 3 affaires distinctes. Afrique centrale maintenant, le président de la République centrafricaine Faustin Archange Touadéra a affirmé lundi à l'ONU avoir demandé à son gouvernement d'accélérer la mise en œuvre d'un programme de désarmement, démobilisation et réintégration des membres des milices qui sévissent dans son pays. Une requête formulée alors que le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, FPRC, l'un des principaux groupes armés dans le pays issu de l'ex-rébellion musulmane Séléka, vient de menacer de marcher sur Bangui. Le FPRC affirme vouloir agir à la suite d'une opération des casques bleus de la MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique, contre les milices contrôlant le PK5, le quartier musulman de Bangui, poumon économique de la capitale. Et toujours en RCA, dans le sud-ouest du pays, des affrontements ont opposé un groupe armé récemment créé au casque bleu de l'ONU. C'est ce qu'a annoncé lundi la MINUSCA, Morgan Guerriec.
D'après un communiqué de la MINUSCA, les casques bleus sont intervenus dimanche pour stopper des éléments armés du groupe Siriri vers la localité de Gamboula. Ils ont tiré sur les soldats de l'ONU qui ont riposté. Selon une source sécuritaire, 4 personnes ont été tuées, dont un chef du groupe Siriri, qui a vu le jour fin 2017 dans le sud-ouest, qui échappait jusque-là aux violences. Plusieurs provinces connaissent un regain de tension. Après des violences début avril dans le quartier musulman du PK5 à Bangui, des groupes armés de l'ex-Séléka se sont réunis à Kagabandoro pour mettre en place une coordination militaire. L'option de descendre sur Bangui n'est pas exclue, selon Aboubakar Sidi Kali, porte-parole du FPRC de Noureddine Adam. Vendredi, le président Faustin Archange Touadéra a de nouveau prôné le dialogue, mais des membres de la société civile exigent qu'il fasse preuve de fermeté face aux groupes armés. L'ambassade américaine à Bangui estime de son côté qu'il faut traiter les criminels comme tels. La population craint une nouvelle escalade.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi en meeting ce mardi à Kinshasa. Le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, principale formation d'opposition en RDC, va s'adresser aux militants et sympathisants de son parti près de mois après qu'il ait succédé à son défunt père. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Je prends acte de votre meeting et vous invite par conséquent à veiller dans le déroulement de votre activité prévue de 11h à 15h au strict respect de la loi régissant les manifestations et réunions publiques dans notre pays. C'est en ces termes que le gouverneur de la ville de Kinshasa a répondu à l'Union pour la démocratie et le progrès social, autorisant de ce fait la tenue du meeting de ce parti ce mardi 24 avril 2018. Une décision qui tombe comme un signe d'apaisement car c'est depuis septembre 2016 que les autorités de la ville de Kinshasa n'avaient plus autorisé de manifestations publiques de l'opposition. En réaction, l'UDPS, organisatrice du meeting à l'occasion de la commémoration de l'introduction il y a 28 ans du multipartisme au Zaïre de Mobutu, promet une forte mobilisation de ses militants et sympathisants dans la discipline, a souligné son porte-parole Augustin Kabuya. Il s'agira de la première grande activité de Félix Tshisekedi depuis son élection comme président de l'UDPS après le décès de son père Étienne Tshisekedi. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Actualité aux États-Unis maintenant, le président français Emmanuel Macron en visite à Washington devrait aborder avec son homologue américain Donald Trump la question des Français qui sont nés américains et dans le collimateur du fisc américain. C'est en application d'une loi américaine dont la fiscalité se fonde sur la nationalité et non le lieu de résidence. Qu'attendent donc les Français concernés par cette obligation? Eric Manirakiza a joint à Paris le fondateur du collectif français des Américains accidentels, Fabien Lehagre.
Ce qu'on souhaite qu'il soit abordé, c'est d'une, les problèmes auxquels nous sommes confrontés sur le territoire français en tant que citoyens français qui avons eu malheureusement le malheur d'être nés sur le sol américain ou d'être nés d'un parent, d'au moins un parent américain. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, voilà, les politiques français ont pris conscience du problème, mais aujourd'hui, à Washington, ils n'en ont pas conscience. Donc ce que l'on souhaite, c'est que le président Macron sensibilise le président Trump, sachant que dans le programme du président Trump lors de la présidence, il y avait deux propositions qui pourraient résoudre nos problèmes. La première proposition, c'est d'abroger FATCA. Et la deuxième proposition, c'est de passer d'une fiscalité fondée sur la nationalité à une fiscalité fondée sur la résidence. Donc voilà ce qu'on souhaite qu'il soit abordé entre les deux présidents.
Est-ce que le président Macron est-il sensible à cette question?
Oui. Oui, oui. En tout cas, la majorité présidentielle l'est. Je sais que le président Macron a été sensibilisé par ses équipes. J'ai rencontré certains de ses conseillers par le passé. Donc le président Macron est sensibilisé. Maintenant, la question, c'est comment le président Trump réagira-t-il aux demandes du président Macron? C'est plutôt ça la question.
En dehors de ce que peut faire l'administration américaine, y a-t-il des marges de manœuvre du côté français?
À travers l'association, nous avons déposé un recours devant le Conseil d'État au niveau français. Dans le courant de l'été, nous aurons un débat au Parlement européen sur le sujet, donc sur le sujet des Américains accidentels. Et une proposition de résolution devrait pouvoir être votée, ce qui donnera vraiment un signe très très fort, puisque le Parlement européen, à travers une éventuelle adoption d'une résolution, pourrait clairement exprimer son désir de voir la situation évoluer pour les Américains accidentels.
Et quelles sont les obligations qui s'imposent à vous actuellement?
Alors déjà, on est confronté à un certain nombre de discriminations de la part des établissements bancaires. Ça, c'est vraiment les problèmes concrets du quotidien, que ce soit les problèmes d'accès bancaire, de problèmes de prêts immobiliers, de placements financiers. Et pour pouvoir en fait se débarrasser de ces problèmes, la solution consiste à renoncer à la nationalité américaine. Parce que dans les faits, cette renonciation paraît bien plus compliquée que sur le papier, puisque ça suppose de se mettre en conformité avec le fisc américain. Donc on se retrouve éventuellement à payer des impôts au fisc américain, et les honoraires pour payer les avocats pour réaliser donc ces déclarations, ces mises en conformité sont relativement élevés, et à cela s'ajoute une taxe pour renoncer à la nationalité américaine de $2,350 à payer à l'ambassade américaine.
Fabien Lehagre, fondateur du collectif français des Américains accidentels. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.